A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Bonjour, je suis Clémence Bodoc.
Je suis Esther Meunier.
Vous écoutez Activiste,
une nouvelle approche de l'action politique.
Elle devrait être en classe.
La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. I am not a
believer in climate change. C'est papa et maman qu'on assassine.
Vous vous transformez en véritable chien de garde de la police de la pensée.
Le choc n'est pas un choc climatique.
Et puis si on est au SMIC, eh ben faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là.
Ou dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femme.
Oh, ça suffit là.
Anarchie. Quelles émotions ce mot provoque-t-il en vous? De la crainte? Du rejet? De la curiosité? Il vous attire? Ou bien il suscite de l'espoir? Peut-être qu'il vous fait naviguer d'un état d'esprit à l'autre. Moi-même, j'ai longtemps ignoré la définition politique du mot. Alors aujourd'hui sur Activiste, nous recevons une personnalité qui va nous permettre de déblayer un peu les idées reçues à l'égard de ce concept, de l'éclairer à la lumière de l'actualité aussi, puisqu'elle a raconté son cheminement vers cette pensée dans un livre, Comment je suis devenue anarchiste. C'est bien Isabelle Attard qui est à notre micro, elle qui est docteure en archéozoologie, qui fut députée de 2012 à 2017 en tant que membre d'Europe Écologie Les Verts au début de son mandat, son parti à la fin. On va explorer un peu ce parcours et les idées qui le jalonnent. Bonjour Isabelle Attard.
Bonjour.
Alors avec vous, j'aimerais commencer par le début, revenir un peu à votre enfance. Vous en parlez un peu dans ce livre, justement, vous avez grandi avec des personnes très engagées autour de vous. Mais est-ce que personnellement, vous vous souvenez de la première chose qui vous a vraiment indigné, face à laquelle vous pensiez tout bas ou criez très fort d'ailleurs, ça c'est pas juste?
Alors effectivement, on peut utiliser des mots d'enfant pour parler de du premier moment ou la première manifestation, finalement, où j'ai participé en tant que personne impliquée. Je crois que j'étais gamine, j'étais en primaire. Et mon père nous avait mis dans une remorque, comme on pourrait imaginer aujourd'hui, une remorque de vélo. On manifestait contre les classes surchargées et le fait d'avoir des enseignants malades qui ne sont pas remplacés. Je m'en souviens encore, j'ai encore la photo chez moi. Et c'était déjà un combat important. Mes parents étaient enseignants au début de leur carrière, ma mère l'est restée. Je sais que je baignais dans un milieu qui était plus celui d'éducation nationale, où on se souciait après 68 d'essayer d'avoir les meilleures conditions possibles pour enseigner aux enfants, de meilleures conditions possibles pour que nous, on puisse apprendre plus facilement. Et les classes, déjà, quand on atteignait 25 élèves, c'était effectivement trop. Et c'est vrai, c'est trop. En tout cas, ça fait partie des premiers. Et j'étais toute petite. Il y avait ça comme combat. Et puis, il y avait aussi le combat antinucléaire. Où là, c'est mes premiers souvenirs de manifestations, de camping sur les rives de la Loire pour manifester contre les deux centrales nucléaires que sont Saint-Laurent-des-Eaux et Dampierre-en-Burley. Ça m'a marqué, étant donné que c'est un peu les deux thèmes que pour lesquels je me suis toujours intéressée, que j'ai essayé d'intégrer aussi plus tard en tant que députée. Mais en tout cas, la partie éducation au sens très très large. Éducation populaire, éducation tout au long de la vie, etc. Et puis la partie écologie antinucléaire, c'est vrai que du coup, deux combats d'enfants pas concernés, plutôt là parce que un combat d'adultes, mais qui me sont restés tout au long de ma vie.
Ouais, vous en parlez justement dans votre livre de ces moments où vous accompagniez votre père notamment partout. Vous y décrivez aussi plein de moments qui montrent que finalement les idéaux anarchistes dont vous faites état dans ce livre vous accompagnent depuis longtemps en fait, sans que vous n'ayez mis le doigt dessus d'abord. Et notamment ce rejet de la domination, de l'autorité d'une personne sur une autre. Est-ce que vous savez d'où ça vient ça? Est-ce que ça vient de quelque part d'ailleurs, ou est-ce que c'était simplement intrinsèque, inné quelque part?
C'est difficile à dire si c'est inné ou pas. Et je me dis aussi tout bêtement que c'est peut-être quelque chose qu'on a tous en nous. de refuser la domination, le pouvoir d'une personne sur une autre, ou qui découle ensuite. Enfin, vous avez des notions d'humiliation, d'infantilisation qui en découle une fois adulte. Je me demande vraiment si on n'est pas tous dans le rejet de toutes les formes de domination, mais que d'un point de vue sociétal ou familial, on n'a pas fini par les accepter, les considérer comme normales, les considérer comme étant quelque chose à subir, mais qui font partie de la vie, tout simplement. Alors que aujourd'hui, moi, je me dis juste que non, c'est pas normal, c'est pas, on peut vivre autrement, on peut partager les moments, et c'est d'autres mots. C'est un changement de vocabulaire que j'opère. C'est à la place de hiérarchie, domination, ordre, obéissance, etc. Je vais plutôt mettre entraide, discussion, autogestion, et indépendance, esprit critique, etc. Pour moi, il y a comme un nuage de mots là qui sont absolument cruciaux à mes yeux, qui l'étaient déjà avant, mais que peut-être j'appelais autrement qu'anarchie, certainement.
On va revenir sur cette définition et sur ce mot, je le disais un peu en introduction, qui fait un peu peur. Avant, je voudrais suivre un peu votre parcours. Vous êtes donc archéozoologue. Est-ce que c'est votre attrait pour l'environnement qui vous a conduit à choisir cette voie dans vos reprises d'études, justement ?
C'est sûr que j'étais intéressée par l'histoire, et puis j'ai compris que ce qui me passionnait encore plus, c'était les traces laissées par les hommes, et plus particulièrement les traces, non pas celles des grands chefs, des grands des seigneurs, quels qu'ils soient, quelle que soit la période historique également, mais plutôt les traces de la vie de tous les jours, de la vie quotidienne des hommes et des femmes qui nous avaient précédés. Donc voilà, j'ai bifurqué vers l'archéologie.
Je me rends compte qu'on n'a pas expliqué ce qu'était l'archéozoologie, mais du coup vous allez le faire.
Non, je voulais le faire, c'est que c'est une discipline qui est à côté des anthropologues. Les anthropologues étudient les ossements humains qu'on retrouve sur les sites archéologiques. Nous, en tant qu'archéozoologues, on étudie les ossements animaux laissés sur les sites archéologiques. Alors, si je parlais de période géologique où l'homme n'apparaît pas, on pourrait dire que je suis paléontologue à la recherche des traces de dinosaures et d'autres petits mammifères. Mais non, pour les périodes historiques, on appelle ça des archéozoologues. Les anthropologues étudient une seule sorte d'os et nous, on fait tous les autres. C'est varié, étant donné que ça va de l'insecte au mollusque, en passant, oui, par les mammifères, les poissons, les oiseaux, etc. Donc, du coup, il y a beaucoup de spécialistes, c'est un monde en soi, l'archéozoologie, mais qui s'intègre à l'étude des paysages aussi. C'est pour ça que je dis souvent que ma spécialité, c'est l'archéologie environnementale, parce que nous travaillons à côté d'archéobotaniques, de géologues, de cartographes, de tous ceux qui finalement arrivent à recréer dans quel habitat vivaient nos ancêtres ou pas nos ancêtres dans n'importe quelle partie du globe, quel était le climat, est-ce que c'était le même qu'aujourd'hui, est-ce que c'était plus chaud, plus froid, est-ce que la végétation était la même, et dans quelles conditions on vivait, quelles espèces également côtoyaient les hommes. Comment on se nourrissait, surtout, c'est évidemment la question prioritaire dans les études archéozoologiques qu'on peut lire. Et ce qui m'intéressait dans cette discipline, c'est surtout de replacer l'homme parmi les autres espèces. J'écoutais une émission tout à l'heure où est-ce que l'homme est un animal comme les autres ? Est-ce que un animal savant, etc. Bon, je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup de questions à se poser sur notre rôle. Le fait d'être un animal savant, est-ce que ça n'a pas finalement provoqué la disparition de toutes les autres espèces, petit à petit, ou par choc successif de grandes vagues de disparition d'espèces? Et ça nous donne effectivement une énorme responsabilité vis-à-vis des autres espèces sur la planète, une certaine humilité aussi à avoir, hein. Si nous sommes si puissants, pourquoi est-ce qu'on arrive à détruire l'environnement de nous-mêmes, de notre propre espèce d'Homo sapiens? On détruit également l'environnement des autres, et petit à petit, on détruit cette planète. Est-ce que c'est ça l'intelligence?
Ouais, c'est de grandes questions que vous abordez à plusieurs reprises dans votre livre, que vous liez avec l'anarchisme. Moi, il y a un truc qui m'intrigue aussi dans votre parcours, c'est que vous décrivez depuis tout à l'heure, voilà, on le voit à travers le parcours professionnel, enfin d'études en tout cas, que vous avez choisi, à travers votre enfance, il y a cette envie de défendre la planète et ses habitants, quels qu'ils soient. Est-ce que c'est de là qu'est venue votre envie de vous engager aux côtés d'Europe Écologie Les Verts à la base ?
Si on reste dans la politique traditionnelle, hein, des partis politiques, des élections qui rythment notre vie soi-disant démocratique depuis des décennies, il était tout à fait logique de regarder finalement quel parti développe des idées qui correspondent aux vôtres pour être utile et vous inscrire dans un groupe qui d'affinité, hein, on va dire d'affinité idéologique et politique pour changer le monde, tout simplement. Et oui, c'était Europe Écologie Les Verts qui me semblait les plus motivés, motivants et actifs sur le terrain politique pour essayer de changer les choses. Ça, c'est ce que je pensais certainement dans les années 2000-2010. Mon père était aussi dans ce parti, donc ça influence forcément quand vous avez des exemples tout proches de vous. Mais je dirais qu'aujourd'hui, j'ai dépassé largement ce stade et je pense aujourd'hui faire beaucoup plus de politique que je pouvais faire avant. C'est pas la même chose, on n'est pas aux mêmes endroits, mais j'essaye pas de justifier, par exemple, admettons, prenons un exemple aujourd'hui, s'il y avait la loi climat votée à l'Assemblée, qui va passer en discussion au Sénat. Aujourd'hui, avec le recul, je trouve ça tout simplement ridicule d'avoir même cru que ce gouvernement allait pouvoir passer une loi qui allait protéger l'intérêt général, qui allait passer par-dessus tous les intérêts privés des grandes multinationales, etc., et que nous allions finalement réussir avec la loi du siècle à régler tous nos problèmes avec des décisions pour des changements dans 10 ans, 20 ans, etc. C'est complètement illusoire d'imaginer que notre modèle de fonctionnement démocratique est en capacité à faire des lois pour l'intérêt général. Ça n'a jamais été le cas.
Mais alors, qu'est-ce qui nous pousse justement à croire? Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à y croire au point de devenir élue, de vous porter candidate? Il y a eu un déclic, d'ailleurs, pour vous porter candidate pour devenir députée?
Oui, il y a certainement beaucoup d'injustices autour de moi, Au début, je ne voulais pas forcément être députée, je voulais agir pour essayer de diminuer ce nombre d'injustices que je voyais d'un point de vue professionnel, humain, social, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. J'étais directrice de musée, je voyais que le piston fonctionnait toujours aussi bien, que les jeunes qui étaient pris pour travailler et qui avaient besoin de bosser pour leurs études n'étaient pas pris parce qu'ils appartenaient pas aux plus grandes familles de la ville où je travaillais. On m'a sanctionné pour avoir défendu ce point de vue, le point de vue de prendre des étudiants capables de parler anglais, motivés en histoire et qui avaient besoin de travailler. Donc oui, beaucoup de ce genre de petits moments pas très agréables où vous vous dites que si vous étiez aux manettes finalement, d'une commune ou plus, vous pourriez faire disparaître ce genre d'industrie. Ça, c'est ce que je me disais, hein, à l'époque, on est effectivement en 2010. Et y a plein de choses sur les violences faites aux femmes, sur les agressions sexuelles, sur tout autour de nous. Vous avez plein d'exemples où vous pouvez très bien vous dire que une fois élu, vous vous battrez pour que ça s'arrête. Et j'y croyais. Je ne peux pas dire aujourd'hui que j'étais pas sincère. Bien au contraire, je l'étais. Par contre, j'avais beaucoup d'illusions sur mon rôle ou sur mes capacités, même avec d'autres élus, mes capacités à faire évoluer ces situations-là. J'ai pas réussi et personne ne peut le faire. En tout cas, tout est fait pour qu'on ne change pas le système que nous avons autour de nous.
Enfin, j'aimerais bien que vous détailliez un petit peu quelles sont ces illusions que vous avez perdues une fois élue quelque part. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, vous considérez que un peu l'expression tous pourris est une expression qui s'applique au monde de la politique institutionnelle ?
Alors, pas seulement à la politique institutionnelle. Et puis je méfie de cette expression. Malheureusement, elle se vérifie très souvent et c'est très difficile de la contrer quand quelqu'un devant vous dit oui, mais dans ce milieu-là de la politique, c'est tous pourris. Moi, je serais plus précise dans ma critique, c'est-à-dire que c'est quasiment tous corrompus, on pourrait dire, ou quasiment tous soumis au clientélisme parce qu'il y a d'autres élections en vue, parce qu'on s'habitue à être dans une position de domination sur les autres en tant qu'élu. C'est ce que j'essaie de décrire dans le livre, c'est que le sens d'élu, au sens quasi religieux des choses, fait que une fois installé à une position de dominant, vous prenez, même si c'est pas votre intention au départ, vous prenez une attitude presque de condescendance ou d'infantilisation, ou alors c'est, même si vous le faites pas, les autres autour de vous vous considèrent différemment parce que vous êtes élu. Donc les rapports humains changent, et ces changements parfois vous donnent effectivement un statut social nettement plus important et des avantages en nature ou des avantages financiers. Moi je dis toujours qu'il y a ces, on s'habitue à ce pouvoir beaucoup plus que, enfin, ça dépasse les questions d'argent. C'est-à-dire que quand vous voyez des élus qui sont cumulards, c'est-à-dire comme on avait avant, alors ça s'est un petit peu amélioré, mais ça reste quand même toujours profondément atroce dans notre pays, c'est-à-dire de pouvoir être président de département, sénateur, maire de sa ville, etc. C'est un cumul de pouvoir qui s'additionne. C'est pas juste des indemnités d'élus qui vont s'additionner. Donc c'est pas, on voit que c'est, le moteur n'est pas l'argent, le moteur c'est de rester à un poste important, c'est l'envie de parvenir qui domine et qui est moteur. Et ce moteur là n'est pas le bon, c'est facile à comprendre pour chacun de nous. C'est pas ça qui va faire que des élus tout d'un coup se battent pour l'intérêt général. Ils vont se battre pour être réélus. Et c'est pas tout la même chose. Donc voilà comment j'essaie d'expliquer que c'est pas vraiment le tous pourri, mais que même quand vous imaginez une poignée d'élus qui seraient différents, qui feraient de la politique différemment, ça c'est un mot que j'ai entendu énormément, mais faire de la politique différemment, ça marche un an ou deux, et puis après vous êtes happé par le système, et pour rester accroché à ses convictions, c'est difficile, déjà. Parce que la vie démocratique rythmée par des élections dans notre pays, comme dans d'autres démocraties, hein, font que vous êtes ramené sans cesse à cette politique politicienne qu'on déplore. Tout est fait pour que vous soyez remis petit à petit bien dans cette atmosphère des institutions, que vous n'en sortiez pas et surtout que vous ne la critiquiez pas. Donc vous imaginez être un électron libre qui va pouvoir déclencher des réactions, sensibiliser les gens en leur disant mais non, c'est, tout le monde n'est pas corrompu, vous voyez, on peut faire des choses. Et finalement, petit à petit, vous vous retrouvez avalé et complètement digéré par cette machine qui est beaucoup plus puissante que vous.
Est-ce que vous pourriez décrire un petit peu certains des moments charnières où vous avez déchanté, peut-être sur certaines politiques publiques que vous espériez voir mises en place et qui ne l'ont pas été, ou autres?
Je pense que ça a été assez rapide. On rentre à l'Assemblée avec tous les élus écologistes en juin 2012. Déjà, vous avez la première réforme des retraites qui apparaît juste en septembre, juste après. La loi sur l'enseignement supérieur et la recherche qui finalement n'a rien à envier à une loi de la droite, et ça c'est en juin 2013. Ce sont des moments où évidemment on perd ses illusions parce que on se dit mais j'ai pas été élue pour ça, tout simplement. Et puis il y a un coup beaucoup plus dur, c'est la mort de Rémi Fraisse. On est en octobre 2014, si je me trompe pas. Je pète toujours. On est en octobre 2014, mi-octobre. Et là, vraiment, je crois que j'ai vécu ce moment-là comme beaucoup. Hein. J'entendais encore récemment des témoignages d'étudiants qui étaient dans les manifestations après son assassinat. Moi, j'appelle ça comme on devrait l'appeler. Hein, c'est un assassinat. Même si peut-être que la personne qui a tiré n'avait pas forcément... n'était pas forcément dans le but de tuer, il y avait quand même l'objectif de faire mal et de viser dans le dos de quelqu'un qui est mort, qui aurait pu être un de mes enfants dans une manifestation parce qu'ils avaient le même âge, n'importe lequel d'entre nous, sur la ZAD ou de Notre-Dame-des-Landes également, hein. C'est arrivé sur le barrage de Sivens, mais ça aurait pu arriver n'importe où. D'ailleurs, c'est arrivé également n'importe où. Et le comportement de mes collègues à l'Assemblée suite à la mort de ce jeune homme a été abject, c'est-à-dire qu'on a essayé de faire une minute de silence. Le groupe écologiste a voulu faire une minute de silence. On s'est fait huer par tous les bancs de l'Assemblée. De partout. Et c'est un moment, je me rappelle encore en avoir être allée voir Marie-Georges Buffet, qui est quelqu'un que j'en estime énormément. Il y en a d'autres comme ça. J'avais quelques collègues que je sais être humains et qui n'ont pas perdu leur valeur. Je me souviens être allée voir Marie-Georges Buffet et en m'effondrant littéralement parce que là, pour le coup, je voyais même plus l'intérêt d'être dans l'hémicycle, d'être élu. Je comprenais plus l'intérêt de se battre si on ne pouvait pas défendre ses valeurs, un combat écologique et sur le terrain, et qu'un jeune, un militant, un activiste pouvait mourir de cette façon et qu'on ne puisse même pas lui rendre hommage. Que je me souviens des propos de Bernard Cazeneuve ou de Manuel Valls à ce moment-là, c'était des propos totalement abjects, hein, qui n'est pas même pas compte de la douleur des familles. Honnêtement, je pense que dans n'importe quel pays, il y aurait eu des démissions des ministres de l'Intérieur peut-être du Premier ministre, mais en tout cas du ministre de l'Intérieur, ça n'a pas eu lieu. Mais c'est des moments comme ça qui vous font des vrais coups sur la tête et dans le cœur et vous vous demandez vraiment ce que vous faites là.
Pourtant, malgré ce que vous décrivez là, c'est quelque chose dont moi je n'avais pas conscience précisément avant de lire votre livre. Je n'avais pas en tête que vous avez tenté de vous représenter en 2017.
En fait, j'avais mis une croix. Je pense que tout le monde arrive à comprendre qu'on peut mettre une croix sur le travail dans l'hémicycle. Je le décris comme un théâtre. Hein. C'est un C'est une pièce de théâtre avec des rôles, le rôle de l'opposition, le rôle de la majorité, les mots qu'on doit prononcer, certains rituels, certaines habitudes, coutumes, on peut appeler ça comme on veut, hein, mais ce sont des textes et des propos et de la gestuelle qui se retrouvent très codifiés et intégrés à l'intérieur d'une pièce qui se rejoue éternellement, sans qu'on puisse y changer quoi que ce soit. Ou alors on va vous faire croire que vous changez quelque chose, que vous avez du poids, un impact, et vous changez à la marge les règles du jeu. Mais c'est infime, c'est vraiment infime. Et donc même si j'avais mis une croix sur ces changements à l'intérieur de l'hémicycle, je n'avais pas mis une croix sur le fait de détourner les moyens de l'Assemblée nationale, de détourner la position de député pour devenir bien davantage une animatrice territoriale, on peut appeler ça comme on veut, en tout cas quelqu'un qui peut redonner confiance dans une politique plus éthique, je ne sais pas comment on peut l'appeler, en tout cas moins corrompue, en faisant participer les gens à des projets de loi, en les faisant décider eux-mêmes. J'avais déjà commencé à le faire quand j'étais dans le premier mandat avec cette réserve parlementaire, ces 130 000 euros distribués finalement par un jury tiré au sort qui étudiait les dossiers, etc. Et donc, j'estimais que de cette façon, on pouvait rétablir une forme de cohérence, de justice dans l'attribution de subventions sans que ça dépende d'une seule personne, en l'occurrence moi, et qu'on ne puisse pas ensuite m'accuser d'avoir donné de l'argent à mes amis ou donner de l'argent à ceux qui pensaient comme moi. Voilà, que ce soit simplement un beau projet qui soit soutenu par un ensemble de personnes qui ne se connaissent pas, tirées au sort, et qui changent tous les ans. C'est à mon sens, cette expérience-là de jury citoyen tiré au sort, c'était ce qu'il y avait de plus enthousiasmant de tout le mandat. Donc je me disais, de façon plutôt logique pour moi en 2017, ça allait peut-être moins aujourd'hui, mais en tout cas ça me paraissait logique de dire allons-y, reprenons 5 ans, puisque j'avais dit 2 mandats maximum, hein, de toute façon j'avais mis mes garde-fous. Je me disais, mais on peut faire d'autres expériences démocratiques où on redonne la main à chaque homme, femme qui a envie d'y participer pour montrer que tout le monde peut le faire, qu'il ne s'agit pas de faire l'ENA ou d'être élu depuis 25 ans pour être en capacité de prendre des décisions pour l'intérêt général, pour aider les autres. Voilà, que c'est possible, qu'on peut le faire chacun à son niveau, dans une vraie expérience, qui peut rejoindre les réflexions qu'on a, par exemple, quand on est tiré au sort pour un juré d'assises. Ben, c'est exactement la même chose, et je voulais le prolonger par d'autres expériences démocratiques de ce genre-là. Et je pensais que c'était un bon moyen de détourner, finalement, la mission de député qui n'avait guère d'intérêt à Paris, pour, sur le terrain, en faire un outil d'émancipation, finalement. Mais je me trompais.
Avec cette expérience-là et votre bagage, comment est-ce que vous avez regardé l'expérimentation de la Convention citoyenne pour le climat, qui consistait dans l'idée à redonner justement le pouvoir à des citoyens? On voit ce que ça donne en ce moment, justement, avec la loi climat dont vous parliez tout à l'heure.
Dès le début, je n'avais aucune illusion sur la Convention citoyenne. C'est pas juste parce que je suis quelqu'un qui n'a plus d'illusions, c'est simplement que il faut regarder quelles sont les règles de départ. Et les règles, c'était finalement que vous allez avoir des personnes tirées au sort qui vont travailler, réfléchir, mais qu'ensuite ce serait au bon vouloir du président de la République de choisir la façon de voter. Référendum ou pas, texte de loi ou pas, et de ce qui allait être à l'intérieur, de ce qu'on allait enlever, de ce qu'on allait garder. Avec l'expérience des 5 ans à l'Assemblée, je savais pertinemment qu'il est facile d'enlever des tas de morceaux d'un texte, de n'en laisser qu'un vulgaire squelette, hein, et que même ce squelette de loi climat est certainement encore plus néfaste que ce qu'il y avait avant. Et je me demande même si on n'aurait pas dû rester au statu quo antérieur. Je me demande même si le Grenelle de l'environnement n'avait pas été une plus grande avancée que cette foutue loi climat. Bon, mais pour en revenir à la Convention citoyenne, quand vous n'avez pas une application directe d'un texte issu du peuple, hein, on peut dire ça comme ça, et avec une application directe quelques mois plus tard, je ne vois pas à quoi ça peut servir. Et je pense même que c'est extrêmement destructeur parce que des personnes y ont cru. C'est comme tout processus soi-disant démocratique, démocratie participative, ouverte, etc., où on va dire aux gens « Mais venez, venez travailler sur ce texte, venez vous exprimer, votre opinion sera prise en compte. » Et puis vous vous apercevez que finalement, on vous demande de choisir uniquement la couleur des pots de fleurs et que tout le reste a été décidé en amont. Bon, la loi climat, c'est la même chose. On a fait réfléchir, on a demandé à des gens de s'investir et ils l'ont fait, avec conscience, avec vraiment un travail acharné. Et ça s'est vu, ça s'est ressenti. Beaucoup de conviction. Tout ça pour finalement être extrêmement déçus eux-mêmes de la considération de leur travail par le gouvernement et par l'ensemble des députés, et de voir qu'il n'en restait plus rien, que les idées les plus fortes n'étaient même pas discutées, dès le départ elles ont été mises de côté, et qu'il ne restait peut-être que la partie d'écologie punitive. Donc on va pouvoir encore plus taper sur les écologistes, qui sont les méchants à vouloir mettre des taxes, etc., à différents endroits pour embêter les gens. Je mets cette phrase évidemment avec de gros guillemets. Donc c'est encore plus démoralisant, je pense, pour des gens qui participent à ce genre d'effort, parce que ça en demande, de voir comment est considéré leur travail à la fin. Et c'est potentiellement des gens qui ensuite... vaut mieux pas leur demander quoi que ce soit, hein, parce que je suis pas sûre qu'ils repartiraient dans ce genre d'aventure. Voilà, mais c'était en tout cas un très bon exemple pour comprendre que c'est une pièce de théâtre jouée à l'avance, et que même si ça donne l'impression d'être très joli à l'extérieur, avec une forme très démocratique de tirage au sort à la manière athénienne, en fait, ça ne l'est pas du tout. Ce sont toujours les multinationales et le CAC 40 qui l'emportent à la fin.
Avec tout ce dont vous faites part, on se dit que finalement, que vous ayez été réélu ou pas en 2017, vous auriez eu ce cheminement que vous avez eu depuis. Je ne sais pas si je me trompe, vous me direz. Mais du coup, je voudrais en venir un peu au cœur de ce sur quoi j'avais envie de vous interroger. Et pour commencer, peut-être que vous pourriez donner votre définition de l'anarchie. Et voilà, parce que je pense que c'est important de déblayer les clichés, parce que comme vous le décrivez très bien dans votre livre d'ailleurs, c'est un mot qui a tendance à faire peur.
Alors, si on veut essayer d'enlever les clichés, de repartir de la base, c'est toujours l'étymologie qui est utile. Anarchie, ça signifie sans le pouvoir. Et on pourrait donner d'autres définitions, d'autres en ont donné des très bien avant moi. Ça pourrait être l'ordre sans le pouvoir, ce qui signifie donc que ce n'est pas le bordel, que ce n'est pas le désordre et le chaos absolu. Bien au contraire, c'est une forme d'organisation de la société sans les pouvoirs ou les formes de domination. Ça, c'est plutôt comme ça que moi je l'expliquerai. C'est-à-dire que je pense que nous sommes, en tant qu'êtres humains, capables de nous organiser sans être infantilisés par une hiérarchie imposante, sans attendre des ordres venus de plus haut. Et il y a plein d'exemples autour de nous qui prouvent qu'on est capable de le faire. En redonnant confiance aussi en chaque être humain, capable d'être debout, c'est ce que je dis souvent, de libre, debout sur ses deux pieds, sur ses deux jambes, avec un esprit libre, un esprit critique, et évidemment une ouverture d'esprit pour comprendre le monde et pour l'envisager dans l'intérêt général comme ce qui est pour moi le but ultime. C'est-à-dire que les anarchistes disent souvent on ne peut pas se sentir libre tant que chaque être humain ne le sera pas. Je ne peux pas me réjouir, moi, d'être libre toute seule, là, dans mon coin, je dis, voilà, youpla boum, si je sais que des millions d'autres personnes sur cette terre ne le sont pas. Et cette forme de solidarité, de prise en considération du fait qu'on est, nous sommes une humanité vivant sur une même planète, avec que les combats se rejoignent, qu'il faut lutter contre toutes les formes de domination, et elles sont nombreuses, mais je parle toujours des celles qui sont les plus importantes à mes yeux, c'est-à-dire la domination des Blancs sur tous les autres peuples de la planète, la domination des hommes sur les femmes, la domination des êtres humains sur toutes les autres espèces animales, toutes ces formes-là, je les combats en tant qu'anarchiste. Et c'est, je pense, ce qui fait que c'est un beau combat. Et ça fait toujours mal de voir ce mot sali ou mal interprété de manière délibérée. Pour moi, ça reste quelque chose de magnifique. Je supporte pas qu'on le mette dans la boue, qu'on le salisse, ou qu'on donne cette définition de chaos. Aujourd'hui, c'est le capitalisme, le chaos. Et on en a les exemples partout autour de nous. C'est-à-dire que cette pandémie, gérée de manière ultra patriarcale par le chef de l'État qui est l'épidémiologiste en chef, le chef des armées, le chef de la sûreté, le chef de la sécurité, le chef de tout, hein, le chef de tout, le chef de nous, comme on pourrait dire, mais c'est caricatural d'un système où nous sommes tous des petits-enfants à attendre la parole divine et la parole du chef, même quand cette parole est absurde, et que les ordres dépendent simplement d'un stock de masques ou d'un stock de vaccins. Et les meilleurs exemples sont ceux où la population, dans différents quartiers, dans différentes villes, dans différents villages en France, se sont organisés, les gens se sont organisés eux-mêmes pour fournir le repas, pour aider les gens chez eux, etc. Ça s'appelle de l'autogestion. Et on n'a pas besoin d'attendre un ordre pour s'organiser, pour faire au mieux et pour prendre soin des autres. Voilà, ça c'est un exemple parmi 100 000.
Est-ce que le fait qu'on n'entende pas parler, pas en ces termes en tout cas, des mouvements anarchistes qui ont jalonné l'histoire, à l'école notamment, contribue à faire de ce mot un tabou, contribue à tout ça?
Bien sûr, ça en fait partie. D'avoir gommé les anarchistes de l'histoire mondiale, ça ne s'est pas fait par hasard, c'est une manière délibérée d'enlever de devant nos yeux, d'enlever des livres scolaires et de tous les livres d'histoire, les exemples où les personnes se sont organisées elles-mêmes, entre elles, pour améliorer l'ordinaire, pour faire en sorte qu'on puisse vivre, manger, se loger, etc., etc., sans dépendre d'un patron, d'un baron de l'industrie aux États-Unis ou d'un seigneur dans différents empires. Et il fallait gommer absolument ces symboles et ces histoires réussies d'émancipation, parce qu'il ne faut surtout pas que les gens imaginent qu'ils vont pouvoir y arriver tout seuls. Sinon, si vous cassez ce phénomène de domination, ça veut dire que les dominants n'ont plus de pouvoir, en tout cas n'ont plus de rayon d'action, ne peuvent plus imposer leur point de vue, parce que les gens vont commencer à réfléchir par eux-mêmes et se dire, mais finalement, est-ce qu'on a vraiment besoin d'être salarié? Est-ce qu'on a vraiment besoin de dépendre de telle personne? Est-ce qu'on peut pas nous-mêmes acheter nos moyens de production? Est-ce qu'on peut pas acheter nos outils en coopérative et répartir entre nous à égalité le résultat de notre travail? Elle est là, la question. Donc il ne faudrait surtout pas que les gens commencent à se dire ça et à se sentir libres de penser ça, parce que du coup, on n'aurait plus de classes précaires, on n'aurait plus de main-d'œuvre pas chère, d'étudiants qui acceptent des petits boulots pour 600 euros pour un temps plein par mois, etc., etc.
On voit dans ce que vous dites que finalement, la diffusion des idées est un peu centrale à l'anarchie. D'après vous, comment on construit une pédagogie anarchiste, une forme d'éducation populaire ?
Ben justement, les pédagogues anarchistes sont ceux qui m'ont intéressée finalement dès le début et qui m'ont amenée à comprendre le mouvement anarchiste. En tout cas, une partie, parce qu'on n'a jamais tout compris et il est tellement vaste que on va dire que j'essaye petit à petit d'en découvrir toutes les facettes et toutes les richesses. Mais les pédagogues comme Francisco Ferrer, par exemple, en Catalogne, ou quelqu'un qui ne se décrivait pas comme anarchiste, mais plutôt comme communiste, mais on va l'appeler communiste libertaire, qui est Célestin Freinet, et sa femme, parce qu'ils étaient deux dans l'histoire. Freinet est quelqu'un qui a fait énormément de bien pour justement ce développement de l'autonomie des enfants, du travail en groupe, etc. Et on n'en parle pas assez, on n'en parle jamais assez de ces écoles Freinet, et pourtant on devrait aller voir un peu ce qui s'y passe, en termes de liberté pédagogique aussi. Et ces pédagogues sont cruciaux parce que c'est eux qui vont ensuite faire en sorte qu'on a des hommes et des femmes libres, capables de se révolter et capables de comprendre ce qui se passe, capables de comprendre les rouages de toute la machine capitaliste, de comprendre comment ça se passe au niveau de de cette injonction à consommer, etc. etc. Donc, être en capacité d'avoir du recul et de comprendre ce que cette machine infernale, hein, comme disent les apatistes, l'hydre capitaliste, comment elle veut nous avaler tout cru finalement, et comment on se laisse faire souvent, c'est par la pédagogie et par l'éducation qu'on arrive à faire en sorte qu'on ait tous des cerveaux suffisamment costauds pour résister à ce genre de discours et à choisir sa vie. Et à réaliser ses rêves.
L'école Freinet, justement, c'est un peu un modèle où, en fait, on met en pratique l'autogestion, la philosophie anarchiste. C'est peut-être la meilleure manière, finalement, de l'expliquer le mieux possible, de faire en sorte que ce mot ne fasse plus peur. Et j'aimerais bien vous entendre, justement, sur des exemples. Vous en décrivez un certain nombre dans votre livre, mais pour donner envie, peut-être, aux gens d'aller le lire. Si vous pouvez en prendre un, comment ça fonctionne en fait l'anarchie, comment ça peut marcher dans le concret?
Alors il y a plein d'exemples concrets à petite échelle ou à grande échelle. À petite échelle, que ça soit dans le monde associatif ou dans le monde professionnel, vous avez des coopératives, des SCOP, par exemple celle de la boulangerie de Montreuil qui s'appelle La Conquête du Pain. Issu du livre de Pierre Kropotkine, et cette boulangerie, tout le monde fait, il y a un partage des tâches. Moi, je parle souvent de ça parce que c'est terrible, les entreprises ou les petites équipes où vous avez quelqu'un qui est au ménage, quelqu'un qui va faire la compta, ensuite le chef, ou je dis le chef parce qu'en général c'est le chef, et puis la secrétaire parce qu'en général c'est la secrétaire, etc. etc. Bon, et avec une répartition des rôles extrêmement bien ficelée. Dans une coopérative comme celles qui sont dans exemple dans mon livre, tout le monde fait toutes les tâches, même les tâches les plus ingrates. Et même moi aujourd'hui avec ma petite équipe au musée, dans le musée de l'école où je travaille, si on doit se répartir les boulots les plus pénibles, et ben on va se les répartir. On ne va pas faire en sorte qu'une seule personne le subisse. Et quand il y a des décisions à prendre, on les prend ensemble. C'est pas les choses les plus agréables, c'est pas moi toute seule en tant que directrice qui vais pouvoir qui vais les vivre. Bon, c'est ce partage de tout, du bien comme du pénible. Et ça, c'est un modèle issu de l'autogestion et de la volonté de gérer les choses le plus horizontalement possible, concrètement. Voilà. Après, vous avez d'autres exemples dans l'histoire où même aujourd'hui, quand on regarde le Rojava ou le Chiapas, où c'est cette volonté d'horizontalité et de prise de décision ensemble qui est le moteur de la vie dans les villages ou dans les villes, tout simplement.
Ouais, on se dit finalement... moi, ça me fait penser à une citation que vous avez mise dans votre livre d'Errico Malatesta, je crois, qui dit « Il ne s'agit pas de faire l'anarchie aujourd'hui, demain ou dans 10 siècles, mais d'avancer vers l'anarchie aujourd'hui, demain, toujours. » pour moi, c'est un peu ce que vous décrivez. C'est la manière, en fait, de le mettre en place petit à petit, que ce soit au départ avec des coopératives, pour aller vers des modèles plus larges comme celui du Rojava.
Effectivement, l'objectif, il est de le vivre. C'est pas je ne parle pas d'utopie, je ne parle pas de principes ou de valeurs philosophiques. Certes, c'est une philosophie de vie, mais c'est une vie surtout. C'est une façon de se comporter tous les jours. Il y a un ouvrage très important qui a été fait suite à un colloque, c'est la notion du refus de parvenir. C'est une notion qui est cruciale à mes yeux et à ceux de mon compagnon également en tant qu'anarchiste, c'est que ne pas vouloir être toujours perçu comme celui qui donne les bonnes idées, ne pas prendre la parole à la place des autres, laisser son ego de côté, souhaiter le développement d'un collectif et pas le développement d'une carrière en solo. Qu'est-ce que ça peut faire si on ne parle pas de nous, on n'a pas un nom qui passe dans la postérité? En fait, c'est se moquer de cette quête perpétuelle cette recherche de la reconnaissance ou de vouloir exister à tout prix et d'être connu, etc. etc. C'est cette façon de vivre-là, cette façon d'exister et le rapport aux autres qui est une arme et qui sert d'exemple. Et c'est vraiment chouette parce que de prendre la phrase d'Errico Malatesta, parce que Malatesta est pour nous un personnage absolument incroyable. Il était, Emma Goldman disait de lui qu'il était le plus intelligent parmi nous. Et c'est quelqu'un qui avait une petite fortune, hein, au départ, qui avait des propriétés, etc., et qui a tout vendu, qui a tout laissé, qui a voyagé dans le monde entier, qui était extrêmement pédagogue. Pour le coup, ça faisait partie de ceux qui savaient le mieux expliquer ce qu'est la philosophie anarchiste. Il y a deux personnes comme ça qui me sont très chères. Il y a Errico Malatesta, par sa capacité à parler aux autres et à se remettre en question également, et puis sa façon de vulgariser l'anarchie au point que tout le monde peut s'en emparer et le vivre au jour le jour. Et puis il y a Voltairine de Clare, dont je parle énormément dans le livre, forcément. On a tous nos petits chouchous. Et Voltairine, c'est une américaine, une anarchiste américaine qui n'était pas anarchiste quand elle était jeune, qui l'est devenue ou qui a compris qu'elle l'avait toujours été, et qui lutte vraiment toute sa vie dans la misère. Hein. C'est quelqu'un qui avait absolument pas d'argent, qui donne des cours aux adultes, tous les immigrés d'Europe de l'Est qui viennent aux États-Unis pour chercher fortune. Elle leur apprend l'anglais, en échange elle apprend le yiddish, elle se bat pour eux toute sa vie, et surtout elle se bat contre l'esclavage des femmes. Alors c'est comme ça qu'elle le dit, mais contre le fait d'être nourrie, logée, en échange d'être la femme de quelqu'un, contre les violences sexistes, contre les violences en tout genre, elle se bat pour l'indépendance des femmes, l'indépendance économique des femmes. Et c'est un parcours... moi, je trouve personnellement qu'elle a une façon de s'exprimer d'une extrême puissance et également très pédagogue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on relit ces textes, et moi, j'ai jamais rien à changer, j'ai pas une virgule à modifier, je m'y retrouve totalement.
Alors, pour aller vers l'anarchie, j'aimerais aussi qu'on parle un peu de comment vous la faites interagir avec les grands enjeux d'aujourd'hui. Vous l'avez déjà un peu expliqué, que quelque part, la domination de l'être humain sur l'être humain induit aussi la domination de l'être humain sur le non-humain. Qu'on peut résumer peut-être ça en disant en quelque sorte que tu respectes pas les tiens, tu risques donc pas de respecter les autres. C'est ça le lien entre l'écologie et l'anarchie, l'absence de domination entre humains nous permettrait de ne pas exploiter la terre comme on le fait actuellement.
Moi, je relis trois piliers, c'est-à-dire il y a, quand on lutte contre les dominations, comme je disais tout à l'heure, il y a les dominations de l'homme sur la femme, des blancs sur toutes les personnes racisées, et la domination de l'espèce humaine sur toutes les autres espèces. Donc, c'est forcément lié le féminisme, l'écologie, la décolonisation, tous les problèmes de racisme, etc. Enfin, c'est une lutte commune et qui ne s'arrête jamais contre toutes les formes de domination. Donc pour moi, ça ne peut pas se séparer. On ne peut pas dire... je trouve pas qu'il y ait de sens à dire qu'on est féministe sans être écologiste, puisque c'est forcément lié. Si vous respectez effectivement tous les êtres, vous respectez aussi les animaux, vous respectez la nature, vous ne pas considérer les autres comme une ressource. Alors c'est très intéressant comme notion, parce que une ressource, on va dire par exemple que le poisson, on va le gérer comme une ressource parce que c'est un aliment pour nous. Le poisson, ce sont des espèces qui existent et qui n'existent pas juste par rapport à nous en tant qu'êtres humains. Ça, c'est sûr et certain. Mais de la même façon, par rapport à l'économie, les ouvriers ne sont pas juste des ressources pour Bernard Arnault. Ce sont des personnes qui ont accepté de mettre effectivement leur force de travail contre un salaire, mais ça ne veut pas dire que ce ne sont que ça. Ce ne sont pas que des ressources, ce sont des personnes qui doivent être respectées comme on respecterait sa famille, ses proches. Ça me paraît tellement évident qu'on ne peut absolument pas dissocier tous les combats de justice sociale, de justice climatique, pour lutter contre toutes ces formes de domination.
Je vois que l'heure tourne, donc je vais avancer un peu dans mon déroulé, mais toujours sur le sujet de l'écologie en particulier. Vous avez ce discours où vous expliquez qu'on nous culpabilise en tant qu'individu de ne pas faire assez, alors même qu'on n'a pas forcément le pouvoir en fait, de faire quoi que ce soit au niveau global. Comment vous faites face à cette idée aujourd'hui dans votre quotidien? Comment est-ce que vous vous organisez collectivement aujourd'hui? C'est une question en quelque sorte sur la forme que prend votre engagement en ce moment.
Il y a un engagement qui est de mettre en application et de faire ce que je dis. Hein, parce qu'on dit toujours que souvent on est là en train de faire des belles phrases et puis de laisser les autres faire. Nous aujourd'hui avec mon compagnon, on essaye de développer l'autonomie alimentaire, d'être dans le... pas l'autosuffisance parce qu'on n'y arrivera absolument pas. C'est pas ce qui est voulu, mais on essaye de vivre en accord avec nos principes, de consommer local, de moins voyager certainement, de partager avec d'autres toute cette volonté de faire évoluer les mentalités, de faire comprendre ce qu'est l'anarchie. Donc on se regroupe à quelques-uns. On a beaucoup de discussions, mais il y a aussi le fait de participer tout simplement aux actions locales, aux associations locales qui se battent pour l'éducation populaire. Il y en a beaucoup autour de nous, donc c'est pas difficile d'en trouver, mais c'est d'être à l'intérieur juste de ces mouvements qui se créent déjà, qui n'ont pas attendu qu'on arrive pour se développer. Et d'être là, d'aider, de mettre en cohérence effectivement nos idées avec nos actes. Et je crois que la recherche de cohérence, c'est ce qui m'a toujours guidée toute ma vie, que je sois députée ou pas. C'est pour moi peut-être un critère d'appréciation des autres, mais je crois que les personnes qui sont incohérentes, politiquement parlant, par politique au sens large, je les fuis, je les fréquente plus, et je préfère qu'on se fixe de petits objectifs, mais qu'il n'y ait pas de décalage, mais qu'il y ait le moins possible de décalage entre le discours et les actes. Voilà.
Je voudrais revenir sur un autre point. Dans l'histoire de l'anarchisme, il y a un point que vous abordez aussi qui est les lois scélérates et comment un corpus de lois a été utilisé à un moment pour la répression et envers les militants et militantes anarchistes. La manière dont vous le décriviez, je me demandais si aujourd'hui, certaines des lois qui peuvent être passées dans notre pays vous font penser à ces lois scélérates.
Ah mais complètement. Je veux dire, ça rejoint la stratégie du choc décrite par Naomi Klein. C'est-à-dire que Naomi Klein explique parfaitement à quel point des périodes de crise, des moments d'attentats par exemple, ou de crise climatique, ou d'accidents, comme un accident tel que la pandémie, suscitent en retour tout un arsenal de lois qui vont durcir le système capitaliste, ou qui vont le renforcer et qui vont nous priver en face, qui vont priver les gens de liberté, liberté d'expression, de mouvement, etc. Et ça s'est produit effectivement au moment de la propagande par le fait. Alors c'est le moment où les anarchistes pensent qu'il faut réveiller les consciences en posant des bombes. Alors, on en a fait tout un plat, mais ça n'a pas tué tant de personnes que ça dans l'histoire, si on y réfléchit bien. Hein. Si 200 personnes ont été tuées dans le monde par les anarchistes, c'est peut-être un grand maximum. En face, il faut aussi regarder toute la violence des forces de l'ordre, des milices privées dans le monde qui ont tué des femmes et des enfants innocents dans les manifestations, par exemple. Ou qui ont fait travailler des enfants de 6 ans dans des usines. Donc, il faut toujours mettre tout en perspective. Mais en tout cas, après cette période d'attentats par les anarchistes, il y a eu les lois scélérates. En France, mais dans tous les pays du monde, il y a eu des lois, qui ont limité la capacité de se rassembler pour discuter, qui ont fiché les militants également. Donc les premiers fichages en France datent de cette période-là, sous Clémenceau, et puis ensuite ça n'a pas arrêté de continuer. Mais oui, aujourd'hui on peut très bien s'apercevoir que chaque action de contestation contre le pouvoir en place va lui permettre à ce pouvoir en place de justifier le vote de lois de plus en plus restrictives sur nos libertés. Donc on le voit avec les Gilets jaunes, il y a eu effectivement toutes les lois sur... contre la liberté de manifester, etc. C'était déjà assez fort, hein, ce qui avait pu être voté sous François Hollande. Il y avait beaucoup de choses qui limitaient déjà la possibilité de se rassembler ou de réfléchir à une contestation, etc. À la fois la pandémie et les manifestations contre la réforme des retraites ou contre la réforme du chômage donne lieu à, en face, une réaction de privation de liberté. Alors, je ne sais pas jusqu'où on peut aller, parce qu'on est déjà quand même descendu très très bas, où on peut dire on a creusé quand même beaucoup sur ce terrain-là. Donc, je ne sais pas si on va pouvoir, si le but c'est de rejoindre la Chine en termes de surveillance de masse, de flicage de la population, ou de prédictologie, c'est-à-dire qu'on va vous arrêter avant même que vous ayez levé le petit doigt. Vous pouvez être aujourd'hui en garde à vue, ça c'est des exemples très concrets, vous êtes en garde à vue parce que vous avez un drapeau ou un manche à balai qui sert de manche pour votre drapeau. Vous pouvez être palpé par les forces de l'ordre et convoqué au commissariat parce que vous avez dit « Macron, nous on est là » ou que vous avez mis une banderole sur votre balcon. Donc, je ne sais pas si tout le monde réalise bien à quel point aujourd'hui l'objectif est qu'on reste chez nous, qu'on ne participe à aucune manifestation, à aucune contestation sur la voie publique ou ailleurs des textes qui sont votés. C'est une peur, c'est une forme de... C'est de l'intimidation à outrance.
Malgré tout, est-ce que vous avez encore de l'espoir ?
J'en ai de moins en moins. Alors, je ne voudrais pas... paraître trop amère, parce que je pense plus que c'est du réalisme que de l'amertume. Et je pense qu'il faut être réaliste, ne pas être dans le déni, être en capacité de comprendre ce qui est en train de se passer dans notre pays et sur le reste des autres continents. Ne pas... ne pas tout accepter, en tout cas, si demain, il faut qu'on soit fiché par rapport à nos vaccins ou à nos tests négatifs, je le refuserai personnellement. Je suis pas sur Terre pour être pucée ou être fichée, même si on l'est déjà certainement tous un peu. Il y a ce qu'on accepte ou ce qu'on n'accepte pas. Il y a la façon de se révolter, la façon de lutter. Est-ce que je suis pas négative, mais oui, je pense qu'on a dépassé le point de non-retour par rapport au réchauffement climatique. Il est déjà largement enclenché. Et je continuerai à me battre parce que c'est une façon de vivre. Mais je pense avoir perdu largement une bonne dose d'optimisme, en tout cas pour la suite.
Merci beaucoup Isabelle Attard. On arrive à la fin de l'interview, même si pour être franchement honnête, il y a un paquet de questions de manière dont on pourrait approfondir cette interview. Mais l'heure tourne. Donc traditionnellement, je propose aux invités de choisir quelques questions dans une liste. Vous avez choisi d'abord 1 à 3 activistes qui vous inspirent.
Alors oui, c'est ceux certainement dont j'ai déjà parlé. Hein. Malatesta est vraiment ce qu'on peut appeler activiste. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui traversait les océans pour aller réveiller et soutenir les groupes anarchistes sur la planète. Et c'est pour moi une forte figure d'activiste avec Voltairine de Cleyre ou Emma Goldman. Il y a quelqu'un comme Makhno, par exemple, qui est Nestor Makhno, hein, ukrainien, qui a essayé de faire en sorte que l'Ukraine devienne complètement anarchiste et qui s'est fait pourchasser par Trotsky et par les bolcheviks. Ça fait partie effectivement des activistes qui, pour moi, sont des figures emblématiques. Alors, malheureusement, je ne suis pas en train de citer des activistes actuels, mais je pourrais par exemple parler du sous-commandant Marcos, qui au Chiapas a fait énormément et dont les textes sont pour le coup une vraie source de motivation. Et c'est très clair et en plus ça donne de la joie. C'est pas bené au point de croire que tout va aller très bien, mais on a besoin d'avoir ces figures-là, d'avoir ces personnalités qui entraînent et qui savent aussi ne pas être toujours en avant ou qui refusent de parvenir, justement. Ces figures qui sont là pour accompagner, mais qui ne sont pas là pour parler à la place des autres et qui aident les autres à grandir. Moi, c'est plus ces personnalités-là qui m'intéressent plutôt que des grands chefs ou des, comme vous l'avez bien compris, les grands leaders suprêmes. Voilà pour ma part d'activiste.
La deuxième question que vous avez choisie, c'est « Je vous donne une machine à remonter le temps et vous réparez quelque chose dans l'histoire. Qu'est-ce que vous faites ?»
Alors, j'ai hésité avec cette question. Soit je remontais à 1871 avec la Commune de Paris, soit je remontais en 1936 avec la Révolution espagnole. Alors, comme il faut toujours choisir, mais que c'est une torture, je vais quand même choisir 36. Donc, je remonterai à juillet 36 et j'essaierai de faire partie de cette histoire avec tous ceux qui se sont battus, tous ceux qui se sont battus contre Franco et contre les communistes à cette époque-là. Pour essayer justement de se battre pour créer une école dans chaque village pour que les femmes soient indépendantes, que le revenu de base finalement soit quasiment instauré dans certaines collectivités d'Aragon ou de Catalogne. Et si j'avais la possibilité, oui, je ferais en sorte que cette révolution réussisse. Ouais, je crois que ça fait partie des moments certainement les plus tristes. Si vous avez l'occasion de voir le film Joseph, au cinéma ou en DVD, qui parle de la retirada, au moment où les anarchistes espagnols et les républicains espagnols quittent le pays pour échapper à Franco et sont mis dans des camps de concentration en France. C'est d'une tristesse, ça en dit très très long sur nos pseudo-démocraties européennes qui n'ont pas levé le petit doigt pour aider les Espagnols. Enfin si, pour aider Franco, oui, mais pas pour aider ceux qui se battaient pour cette révolution espagnole. Et voilà, si j'avais possibilité, j'avais un énorme pouvoir, et surtout une grosse baguette magique, je changerais les choses en 1936.
Bah, merci beaucoup. Malgré tout, moi, j'ai trouvé que ce soit dans cette interview ou dans votre livre que j'ai lu, y a des modèles d'espoir, justement parce que je pense que les modèles anarchistes que vous présentez sont des alternatives qui peuvent faire envie. Donc merci pour ça, c'est précieux. Vers quoi je renvoie, outre votre livre, donc « Comment je suis devenue anarchiste au seuil » dans la collection Reporter, est-ce qu'il y a d'autres endroits où on vous suit ?
Eh ben, on a disparu des réseaux sociaux, c'est un choix. Donc, ceux qui ont envie de nous joindre, je suis sûre, sauront vous contacter et ensuite pourront être mis en relation avec nous. On essaye d'être plutôt discret, de faire notre travail et de continuer à sensibiliser les esprits, à faire de l'éducation populaire, parce que finalement, et je précise, éducation populaire politique, c'est finalement ce qu'on sait faire le mieux et ce que j'aime faire. Et c'est dans ce sens-là que je vais continuer à me battre, en tout cas. Donc, tant pis pour ceux qui essayent qui restent sur ces réseaux sociaux. Nous, on a décidé de s'en aller. Ça ne veut pas dire qu'on disparaît pour autant. Et on reste dans le centre-Bretagne et ça bouge partout. Quand je disais que je n'ai pas beaucoup d'espoir, c'est que je n'ai pas beaucoup d'espoir sur... le fait de changer la donne au niveau international ou d'aider pour le climat, mais j'ai toujours l'espoir que de plus en plus de gens se rendent compte que qu'il est possible de vivre autrement ou de traiter les autres différemment et de respecter aussi ceux qui vivent autour de nous. Et donc je perds pas le moral là-dessus. J'ai moins d'ambition. Certainement moins d'ambition qu'avant, c'est sûr. Voilà.
Eh ben, merci beaucoup Isabelle Attard.
Merci à vous.
Et voilà pour cet épisode d'Activiste. On espère qu'il vous aura inspiré à agir. Si vous êtes vous-même activiste, engagé, n'hésitez pas à nous écrire sur tutoconquérirlemonde@gmail.com pour nous présenter votre projet. Activiste est un podcast entièrement produit et réalisé par Clémence Bodoc et moi-même, Esther Meunier, alias Esther Reporter. Vous pouvez soutenir ce podcast et notre travail en général en contribuant à nos Patreons respectifs dont les liens sont dans la description. Vous pouvez aussi laisser des étoiles et des commentaires sur vos apps de podcast et partager nos épisodes à vos proches, c'est ce qui nous aide à nous faire connaître. Merci beaucoup pour votre écoute, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous.
Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.